Visitez françaisanglais.ca. Programme financé par le gouvernement du Canada.
Bord de la Réveillère Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Pour tout savoir sur l'actualité d'ici et d'ailleurs, Chiz t'offre le meilleur de l'information tous les midis. Les affamés, ça commence maintenant. Bon appétit!
À toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Guillaume Bédard qui vous parle au micro en ce jeudi 22 avril 2021. J'ai l'honneur, le privilège et l'incroyable plaisir d'être en compagnie de Félix Etienne. Bonjour Félix.
Bonjour Guillaume.
Comment tu vas aujourd'hui Félix?
Ça va très bien. C'est une fin de session difficile, mais on s'en sort. Hein? On n'a pas trop le choix. On est à l'université en plus d'animer à la radio, donc on a plusieurs tâches à accomplir, toi et moi, en ces temps difficiles.
Oui, effectivement, et on a même plusieurs tâches à accomplir dans cette émission de radio parce qu'on a beaucoup de nouvelles pour vous, chers auditeurs. Ce midi, c'est sûr, on va parler de nos actualités coronavirales. On en parle beaucoup. Il y a potentiellement le variant indien qui est arrivé au Québec, au Canada. Il faut qu'on en parle. Ça a fait beaucoup réagir dans les médias. On va également parler un petit peu d'actualité judiciaire et politique parce que la loi 21, le jugement sur la loi sur la laïcité de l'État, a été rendu cette semaine et j'ai pas l'impression qu'on a fini d'en parler, surtout avec la réforme de la loi 101, de la loi sur la charte de la langue française qui s'en vient bientôt. On peut s'attendre à ce qu'il y ait des contestations similaires. C'est tout un dossier qu'on a monté pour vous. On va également parler un petit peu de nouvelles internationales qu'on s'en aille aux États-Unis, en Russie, au Japon, mais également de nouvelles interplanétaires, parce qu'on
ça, c'est toujours intéressant
qu'on
en parle.
Ben oui.
Ça ne s'arrête jamais, même pas aux frontières de la planète Terre.
Même pas aux frontières de la planète Terre. Effectivement, on a une petite nouvelle martienne pour vous aujourd'hui, mais avant toute chose, on va commencer comme il se doit, en chansons et en musique. On va commencer avec Canelo, tiens, on va aller écouter Arena. On vous revient tout de suite après sur les ondes de Chiz 94.3.
Lis-moi le classique, j'avais le choix, le crime ou le basket marche dans mes shoes. Si tu peux les attacher dans mon everyday struggle, je sais ce que j'équivaut. Quand la vie me fait une trappe, je me sers de mon pied pivot. Le mandril a échappé, la foule en délire quand je lance les trois paniers. Le coach crie 110, full court press. On aime la rivalité, bread, buff, SSF. On steal, c'est à la balle, protect it. J'porte le 6 comme Chris Porzingis. En équipe, parce que tout seul, tu forces bien plus. Démarcation à L, dans ta zone, j'suis une force intruse. Si t'es droitier, j't'attaque à gauche. Deux dribbles, step back, une passe à cosse. For real, son, on veut ball comme Wilson. Depuis tout jeune, on s'peut dire que we different.
Mon ami, j'te fais, c'est te spot, vive autre chose. Rappelle-toi que dans le hood, t'es quand même dans l'espace. Indigène comme eux, c'est des vierges, black et all. Tipper le ball en un peu de weed, alcohol. Y'en a qui sont, c'est une bonne pause, disque ball. Dope bro, après j'ai au pack, littéralement bon. Tout le monde veut que ça compte une personne, c'est le vrai score. La game de 11, une gens, 13 à 20 gens. Les années passent en deux secondes, les nuits sont longues. Futur nous apparaît, luisant comme du soul glow. Solide sur le front avec nos petites pinots blondes. Sans se faire pimp et work, avec nos mêmes pinots longues.
fais du temps, un être humain, change, me change pas. Infatigue, comme un roster qui chante déjà. T'es cherchant encore d'où vient trap, j'engorge. Pourquoi pas l'école, m'en délipe dans le samba. En main dehors, me plein d'air, et c'est dans le bas. Une vanne au bœuf, dans deux, quatre pattes pour s'en là. Ça ressemble à une garderie de vieux, mince, me chante job. Life is a chill and beat work, que tu penses, bruh. Tight, what that shit, that bonbon. Apprendre un an, je comme le truc, que drive slow. Mais juste de pas se sauver, à vivre correct, on s'inquiète pas les années qui arrivent sur hell, non. Zéro beef à nourrir, plus beaucoup à squash. Juste plusieurs tasses de thé, puis une liste de tâches. Puis l'étoile brillante en nos néons que c'est nord. Les étoiles restent en même place quand c'est sur poche. Là, les mots Kobe Bryant. La vie, c'est comme une game de basket. Pay for 8 games, pratique. Des soeurs, droite et lacet. Des tirs, t'essayes pas, oh shit. Des droites, ils jouent en gauche. Pour être bon, c'est un raccourci. Yeah. Splash et puis nous-mêmes nous coacher. On va en faire encore des moins beaux. J'ai des défaites à éponge. Là, les mots Kobe Bryant.
You know, the game is just a part of me. Everything I've learned from the game of basketball, I've carried it over into life. Because there's life lessons that are within the game. We're not on this stage just because of talent or ability. We'll never be retired. Rest at the end, not in the middle. Using basketball is kind of like a vehicle. It's not about your opponent, it's about you. It's about you taking it in a struggle and channeling that through the game. Every day, you're trying to become better. Trying to be the best version of yourself.
Yeah!
Faut pas en ville, peut-être qu'en banlieue, ben, ça sera pas des roses, ça sera plus des petits renards.
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Médard qui vous parle au micro en compagnie de Félix Étienne. Et on plonge directement dans le vif du sujet. On s'en va en actualité coronavirale. Tout d'abord, Félix, pour commencer, les chiffres du jour.
Donc, les chiffres du jour. Aujourd'hui, au Québec, il y a 1248 nouveaux cas confirmés de COVID-19. C'est grosso modo dans la moyenne des derniers jours. Si on compte que c'est sur un total de 41 804 tests de dépistage qui ont été analysés, on a un taux de positivité de 3 %, un pourcentage qui est très stable depuis plusieurs semaines. Pour ce qui est des hospitalisations, il y a 711 personnes hospitalisées en ce moment dans la province. C'est 5 personnes de moins qu'hier. Et de ces personnes, il y en a 174 aux soins intensifs, encore une diminution de 4.
Ce qui nous inquiète, par contre, c'est pas nécessairement les chiffres, parce que oui, les chiffres, on voit que c'est une tendance à la baisse par rapport à la semaine dernière où on commençait à ressentir une grosse panique.
Et effectivement, la baisse est extrêmement marquée dans nos régions, dans nos deux régions, dans la capitale nationale particulièrement. C'est 150 nouveaux cas par rapport à hier, c'est en baisse de 45 et... Fait à noter, le nombre de nouveaux cas en chiffre absolu est plus bas sur la rive nord que sur la rive sud, que dans Chaudière-Appalaches, où on a 171 nouveaux cas.
C'est assez rare quand même.
Et la rive sud, on s'en rappelle, il y a moins de monde que sur la rive nord. Donc, on dirait que les mesures annoncées par le gouvernement le 1er avril, elles commencent à faire effet et elles devraient continuer à faire effet pendant longtemps, comme elles ont été prolongées jusqu'au début du mois de mai et possiblement d'autres semaines encore. On ne le sait pas encore.
Oui, mais c'est ça ce que je disais, c'est que ces hospitalisations, oui, on a moins d'hospitalisations, mais ce qui inquiète les gens, c'est vraiment la répartition des hospitalisations à travers le Québec. Dans certaines régions, il y a vraiment une concentration et il y a un surplus d'hospitalisations qui n'est pas capable d'être géré par les hôpitaux. C'est le cas dans la capitale nationale, c'est le cas dans Chaudière-Appalaches. On sait qu'il y a déjà du délestage qui a commencé à être fait dans la capitale nationale, mais là, aujourd'hui, en Chaudière-Appalaches, on commence à exporter des patients.
Effectivement, on déplace des patients vers des hôpitaux à Rimouski, carrément. On s'en rappelle, à certains moments, c'était le contraire qui se faisait. Alors que l'unité COVID avait été fermée dans le Bas-Saint-Laurent, on avait dû transférer des patients du Bas-Saint-Laurent à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Maintenant, c'est l'inverse qui se fait. La pression sur les hôpitaux de Québec est rendue trop élevée. Néanmoins, c'est une pratique qui se faisait assez souvent pendant les vagues précédentes. On s'en rappelle, à l'automne dernier, il y avait eu une éclosion extrêmement importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'était des hôpitaux de Québec qui avaient dû s'occuper des patients COVID du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est quelque chose qui arrive souvent. Fort heureusement pour nous, il y a beaucoup de régions qui n'ont pas connu l'explosion de cas qu'on a connu dans nos régions. Donc, pour le moment, la capacité hospitalière du Québec ne semble pas en voie d'être débordée. D'ailleurs, si on regarde les hospitalisations faites par les projections gouvernementales, on prévoit que ça va se stabiliser au cours des prochaines semaines si la tendance des nouveaux cas se maintient.
Oui, par contre, ce qui est très inquiétant également, c'est qu'il y a eu un premier cas du variant indien qui a été dénoté aujourd'hui au Québec, dans les 24 dernières heures au Québec, et le premier ministre du Québec, François Legault, qui est d'ailleurs également président du Conseil de la Fédération, donc qui est le regroupement de tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux au Canada, a confirmé à la presse canadienne que lui et d'autres ministres provinciaux, dont l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique, donc toutes les grandes provinces canadiennes, les provinces très peuplées, ont demandé à Justin Trudeau de fermer les frontières le plus rapidement possible.
Effectivement, c'est en fait avec la propagation des variants brésiliens et indiens. Ça, en fait, on se demande pourquoi, parce qu'en théorie, au Canada, c'est depuis le mois de mars 2020, seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent atterrir au Canada par avion et on leur demande de faire une quarantaine de 2 semaines. Néanmoins, selon plusieurs reportages, en fait, on parle d'au moins 45 vols en provenance de l'Inde qui ont atterri à l'aéroport de Vancouver depuis le mois de janvier, qui avaient des cas de COVID-19 à bord. Et seulement pour le mois d'avril, il y a eu 17 vols en provenance de l'Inde à Vancouver qui avaient des cas de COVID-19. Et également, plusieurs médias ont révélé qu'il y avait des stratagèmes qui étaient utilisés par certaines compagnies pour contourner les règles de quarantaine obligatoires. Par exemple, venir chercher des gens en taxi directement à l'aéroport pour les exempter de faire des quarantaines à l'hôtel. Également, ça, c'est Radio-Canada qui nous révèle ça ce matin. On avait également des faux tests de dépistage négatifs qui sont en circulation. On s'en rappelle, si vous voulez entrer au Canada, vous devez présenter un test de dépistage négatif fait au moins 3 jours avant votre arrivée au Canada. Donc, voir qu'il y a des faux tests de dépistage, des stratagèmes pour contourner les quarantaines, c'est ce qui fait réagir les gouvernements des 4 provinces que tu as mentionnées.
Effectivement, et ça a beaucoup fait réagir également en politique fédérale. Le chef du Parti conservateur, Erin O'Toole, lui aussi demande qu'il y ait une plus grande restriction. Il réclame la suspension des vols issus des pays les plus touchés directement.
On pense entre autres au Brésil et à l'Inde. On s'en rappelle, la France a déjà suspendu ses vols avec le Brésil depuis environ 1 semaine. Et donc, les premiers ministres de ces 4 provinces demandent au gouvernement fédéral de faire la même chose. Donc, du côté du gouvernement fédéral, on pense qu'il doit avoir reçu les informations de ces premiers ministres provinciaux. Et peut-être qu'il y aura une décision prise dans les prochains jours. On vous tiendra au courant.
Effectivement, le ministre de la Sécurité publique du Canada, Bill Blair, a annoncé qu'il y aurait une décision qui serait prise dans les 24 heures. Dans les 24 heures, donc on devrait savoir d'ici demain quel sera l'état de la situation. Écoute, on a également la réaction du chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui dit qu'il ne peut pas être en désaccord avec ça. L'intention, c'est pas de faire un énoncé à caractère idéologique ou politique, c'est de prendre des mesures qui vont protéger la santé, la sécurité et dans de nombreux cas, la vie des citoyens au Québec et au Canada. Plus il y a de cas sur un territoire donné, plus il y a de risques que ces cas-là soient transportés par avion sur un autre territoire, dans le Canada. Évidemment, il faut considérer des mesures de restriction venant d'endroits où est-ce qu'il y a une forte prévalence du virus. Donc, on a une espèce de semi-consensus qui émerge présentement. On ne veut pas avoir plus de cas en plein milieu de la troisième vague.
Effectivement, déjà que le variant britannique, qui est environ 50% contagieux, est déjà très présent. On ne veut pas se retrouver avec d'autres variants plus contagieux encore, comme le variant indien et le variant brésilien sont soupçonnés de l'être.
Effectivement, surtout que on apprenait dans les pages de la presse ce matin que un Québécois sur 3 reconnaît avoir visité quelqu'un ou reçu au moins une personne à la maison depuis le début du mois d'avril.
Effectivement, ça c'est un sondage fait par l'Institut national de la santé publique, donc l'INSPQ. C'est un pourcentage qui est assez stable depuis le début de l'année 2021. On parle d'environ 30 à 35 %, un pourcentage qui se maintient. pourcentage qui est plus élevé chez les plus jeunes d'entre nous. Chez les 18 à 24 ans, on parle de 44 %. Et parmi les 25 à 44 ans, on parle de 42 % qui reconnaissent avoir reçu de la visite à la maison. Cependant, ce que ça ne précise pas, est-ce que ce sont des personnes qui ont le droit de recevoir de la visite? Est-ce que ce sont des personnes qui habitent seules chez elles? On s'en rappelle, les gens qui habitent seuls ont le droit d'avoir de la visite d'une bulle familiale et une seule depuis le début de la pandémie.
Effectivement, mais ce qu'on peut voir, c'est que ça peut quand même être une source de contagion, ça peut quand même être une source de transmission de la maladie, même si, effectivement, comme tu l'as mentionné, pour les personnes seules, ça peut être très compréhensible quand même.
Effectivement. Et par contre, pour ce qui est des autres mesures sanitaires, le fameux couvre-feu, qui est la mesure probablement la plus controversée qui fait couler le plus d'encre ces temps-ci, 73 % des personnes interrogées par ce sondage se disent favorables au maintien du couvre-feu pour les prochaines semaines, un pourcentage d'appui qui est assez stable depuis l'instauration de cette mesure.
Effectivement. On va également aller du côté des bonnes nouvelles un petit peu.
Oui, ça fait quand même assez lourd de sombres prédictions qu'on fait. Effectivement, les bonnes nouvelles, la vaccination. Écoute, Guillaume, hier, le 21 avril, on a battu un record de vaccination. C'est presque 86 000 doses de vaccins qui ont été données dans les 24 dernières heures. Donc, c'est un chiffre vraiment record depuis le début de la campagne de vaccination. Ça, on s'en rappelle, c'est dû au vaccin d'AstraZeneca qui est ouvert pour les personnes, pour les Québécois âgés de 45 à 54 ans. Les gens peuvent se présenter au centre de vaccination sans rendez-vous et recevoir ce fameux vaccin.
Effectivement, on sait qu'il y a présentement 11 000 personnes au Québec qui ont le droit de donner des vaccins, qui ont reçu la formation pour le faire. Donc, on est capable d'être de plus en plus efficace. La machine est bien partie.
Et ça devrait s'accélérer encore plus dès le mois de mai, dès le début du mois de mai. On s'en rappelle, la semaine dernière, le gouvernement Trudeau a annoncé l'achat de 8 millions de doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech. Et donc, on parle de livraisons hebdomadaires pour le Québec. On est à peu près à 230 000 au cours du mois d'avril. Au mois de mai, on va passer à 450 000 par semaine. Et au mois de juin, 550 000 doses par semaine.
Oui, parce qu'à 450 000 doses par semaine, là, on va être capable de faire ce rythme-là de 80 000 doses par jour pendant tous les jours.
Parce Et même beaucoup plus, selon certaines sources gouvernementales. Certaines sources gouvernementales disent qu'il serait possible, si on a le nombre de doses suffisant, de faire 1 million de doses par semaine. Ça, c'est selon certaines sources gouvernementales. Pour le moment, on n'a pas de confirmation des livraisons attendues du côté des autres firmes de vaccins, donc du côté de Moderna, de AstraZeneca et de Johnson & Johnson.
Oui, donc la cible du 24 de juin pour que tout le monde ait reçu sa première dose, c'est une cible qui est très réaliste
pour
en ce moment.
Pour le moment, oui, c'est une cible qui semble extrêmement réaliste avec les chiffres qu'on a sous la main en ce moment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et en plus, ça permet au gouvernement de commencer l'attribution des deuxièmes doses de vaccins pour les personnes qui ont été vaccinées au début de l'année 2021. On parle des résidents des CHSLD et de certains travailleurs de la santé.
Effectivement. Et pour terminer ce segment d'actualité coronavirale, on a eu un bel article dans Radio-Canada aujourd'hui qui tente de démystifier la thrombose due au vaccin AstraZeneca. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est si probable que ça? Parce qu'on sait que ça a beaucoup fait couler l'encre ces derniers temps, ces risques-là accrus de thrombose.
Eh bien, tout ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le risque de thrombose, il faut s'en rappeler, c'est un risque qui est extrêmement faible. On parle d'un risque de 1 sur 100 000. Comparativement, si vous prenez la pilule contraceptive, c'est une chance sur 1000 de faire une thrombose. Et pour les gens qui fument la cigarette, c'est également un risque très élevé de faire une thrombose. Et surtout, par comparaison, si vous êtes hospitalisé en raison de la COVID-19, vous avez environ 15 % de risque de faire des thromboses.
15 %, c'est gros.
C'est beaucoup plus élevé. Seulement, ce qu'il faut noter, c'est que les thromboses faites par les vaccins, on parle surtout des vaccins à vecteurs viraux, donc les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, ce sont des vaccins qui utilisent une certaine technologie et c'est un type de thrombose qui est différent que les thromboses régulières. Par contre, il faut noter que les thromboses, c'est un phénomène médical assez courant. Si c'est repéré assez tôt, ça peut être pris en charge assez facilement par les hôpitaux. Si vous ressentez des symptômes de thrombose, vous pouvez facilement vous présenter et on va s'occuper de vous.
Eh bien, merci beaucoup pour ces clarifications-là, pour ces explications-là. On vous revient tout de suite après la pause musicale avec des nouvelles politiques provinciales. Mais en attendant, on va quand même prendre le temps d'aller écouter Lewis Dice et sa chanson Nirvana. Vous écoutez toujours Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
valse, de haut en bas, similaire à chaque détenteur d'un cœur. Avec un peu de désir, mon esprit se détendra, se déliera, comme à contre-cœur de sa direction initiale. Aux chutes, au sommet, ou parfois simplement haut en bas, bref, assis seul. Mes up-tempo se lient au sol, de la même manière que ma voix sur le slow sample. Explosion brisée, tel un éclair, on met l'éclat, comme un écran de sel, le même sur lequel reflète le soleil, celui qui scelle mes paupières, sticky comme du miel. S'il te plaît, s'il me plaît, sans même demander s'il vous plaît.
Super proud, aucun super power. En cas de nirvana, plonge ta première, wait, never mind. Observe un air époustouflant comme un scuba dive. Décompresse, roule un super size. Super proud, aucun super power. En cas de nirvana, plonge ta première, wait, never mind. Observe un air époustouflant comme un scuba dive. Décompresse, roule un super size.
Dans le ciel, mon lit, tellement le smoke dans le brain, yeah. Calmer mon esprit, pavillon sagé dans le belly. Quand je suis hors de moi, me rappelle à quel point je suis choyé et béni. Des faces et des complexités, choisis la tienne, un panoplie. Oh, oh yeah, man, je feel fine. Blue sky, douce rap, mettra le nez dans un paper plane. C'est ta vie, good, tu peux pas te plaindre. C'est vraiment ça que t'avais les populaires, if you don't mind. Je vais m'en tenir un peu plus loin. Dans un peu de vie dans les airs, hope you don't mind. Do I, do slide, slip dans mes paroles plus douces tard. Tour de me cerner, ils me regardent genre douce tarif. I guess que leur corps m'emporte, rempli de douce nostalgie.
Super proud, aucun super power. En cas de nirvana, plonge ta première, wait, never mind. Observe un air époustouflant comme un scuba dive. Décompresse, roule un super size. Super proud. Aucun super power. En cas de nirvana, plonge ta première, wait, never mind. Observe un air époustouflant comme un scuba dive. Décompresse, roule un super size.
Écoutez les affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard au micro en compagnie de Félix Étienne. Et on tombe directement dans notre segment d'actualité politique provinciale parce que... Puis on fait un lien directement avec les actualités coronavirales dont on parlait juste avant la pause musicale.
En fait, on va y aller dans quelque chose d'assez anecdotique, mais d'assez spectaculaire qui fait quand même beaucoup jaser sur les réseaux sociaux ce matin.
Effectivement, la une du Journal de Montréal, Journal de Québec, et je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je sais que je l'ai remarqué en prenant l'autobus ce matin pour me rendre à l'université. Et c'est une énorme photo de Justin Trudeau dans son déguisement indien quand il a fait son voyage diplomatique en Inde avec le texte qui a collé, qui dit « Le variant de l'Inde est arrivé. Alors, Justin, est-ce qu'on coupe rapidement les liens avec l'Inde cette fois-ci? » Ça a fait énormément réagir comme photo, en premier lieu de la part du ministre de la lutte au racisme du Québec, Benoît Charrette, qui a dit « Pour ma part, ce sont les conséquences de cette photo qui m'inquiètent. Nous assistons à une recrudescence d'actes racistes depuis le début de la pandémie. Avec des présentations semblables, on risque d'alimenter les préjugés. »
Et c'est une dénonciation qui a été partagée également par les chefs de tous les partis à l'Assemblée nationale, que ce soit le Parti libéral, Québec solidaire ou le Parti québécois. Également à Ottawa, le nouveau Parti démocratique a vivement dénoncé la une du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Faut noter que semble-t-il que ça aurait été retiré de leur page Facebook, parce que même le président du syndicat des employés de Québecor, du syndicat des De la rédaction au Journal de Québec, Jean-François Racine a également dit qu'il était profondément mal à l'aise avec la une du journal.
Effectivement, le Conseil de presse du Québec qui dit que normalement les citoyens ont jusqu'à 3 mois pour déposer des plaintes ont reçu plusieurs plaintes aujourd'hui uniquement depuis la parution, depuis l'ouverture de cette... depuis la publication de cette une-là, ils ont déjà reçu plusieurs plaintes. Ils vont donc évaluer s'il y a eu faute en vertu de leur guide de déontologie.
Il faut rappeler par contre que le Conseil de presse, les médias de Québécois Médias n'en sont pas membres, donc malheureusement, la portée de ce tribunal d'honneur demeure somme doute plutôt symbolique.
Effectivement, on va quand même rapporter les propos de la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui a dit que cette une-là était inacceptable. Elle dit « En regardant la une ce matin, je me suis posé la question, quel message est-ce qu'on essaye d'envoyer? Quand je vois des événements ici où les gens d'origine asiatique ont été victimes de propos absolument inacceptables, je pense qu'il faut faire très attention aux messages qu'on essaie d'envoyer à la population. » C'est fort, c'est très fort comme propos. Et c'est pas le seul, mais pour une fois, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale s'entendent sur un sujet en lien, avec la représentation des différentes ethnies, des différentes communautés culturelle au Québec, parce que on sait que la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, c'est une forme de discorde à l'Assemblée
Effectivement,
nationale.
Effectivement, il n'y a pas du tout de consensus sur la question, et depuis le jugement de mardi dernier qui maintient l'essentiel de la loi 21, les partis politiques ne s'entendent pas sur la portée à donner à ce jugement du juge Marc-André Blanchard de la Cour supérieure du Québec. On s'en rappelle, le jugement a exempté les commissions scolaires anglophones de l'application de la loi 21 en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés qui prévoit que les communautés linguistiques ont le droit de gérer leur propre système scolaire. Donc, on considérait que la loi 21 empêchait les anglophones, la communauté anglophone au Québec d'administrer comme son bon vouloir le système scolaire québécois.
Effectivement, on se rappelle également que le juge Blanchard a dit que l'état actuel du droit l'empêchait de passer outre la clause dérogatoire, mais il jugeait que cet usage de la clause dérogatoire était, en somme toute, plutôt abusif et excessif.
Et effectivement, justement, en raison de ces déclarations du juge Blanchard, c'est un peu ce qui a poussé le gouvernement du Québec à porter en appel le jugement vers la Cour d'appel du Québec, entre autres la décision d'exempter les commissions scolaires anglophones de la loi 21. On n'est pas du tout d'accord du côté de la CAQ. C'est également le cas au Parti québécois. Au Parti québécois, on considère que ce jugement-là vient en fait partitionner le Québec en deux. On dit qu'il y a un droit pour la communauté anglophone et un droit pour la communauté francophone. Donc, du côté du Parti québécois et de la CAQ, on est en désaccord avec ce jugement. Par contre, du côté du Parti libéral, la chef de l'opposition, Dominique Anglade, a annoncé que si elle prenait le pouvoir, elle ne renouvellerait pas l'application de la clause dérogatoire. On se rappelle, la clause dérogatoire, lorsqu'elle est invoquée, elle est valide pour 5 ans. Elle doit être renouvelée après le délai de 5 ans.
Oui, et ça, cette prise de position-là de la part de la chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, ça a fait sauter au plafond le premier ministre François Legault, qui a dit, et là je rapporte ses propos de la part de Marie-Michèle Sioui du Devoir, et donc le premier ministre François Legault juge que la chef libérale Dominique Anglade choisit de ne pas défendre les valeurs québécoises en laissant les tribunaux décider du sort de la loi de la laïcité de l'État. Dominique Anglade vient d'échouer à son test de leadership. Je cite le premier ministre. Elle est incapable de défendre les valeurs des Québécois. Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il y a une majorité de gens qui sont pour cette loi, et donc c'est du devoir du gouvernement du Québec de la défendre. Donc, c'est quand même plutôt spécial comme proposition, comme position politique à assumer en disant que si tu es contre telle loi, tu es contre le Québec.
Ça, c'est assez... On se dit que le débat ne vole pas très très haut en ce moment, malheureusement. Il faut reconnaître que la loi 21, oui, elle est appuyée par la majorité de l'Assemblée nationale, par la majorité de la population québécoise, mais il faut reconnaître un droit au respect des débats politiques, un droit au dissensus et à la discussion.
Effectivement, mais ce qui est très intéressant par rapport à cette position-là de dire on va simplement ne pas renouveler la clause dérogatoire, c'est que la clause dérogatoire, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que le premier ministre a également dit qu'il risquait de l'utiliser, il risquait fort probablement de l'utiliser pour sa réforme de la loi 101, de la Charte de la langue française, qui est également pilotée par le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette.
Effectivement, selon le premier ministre François Legault, le projet de réforme de la loi 101 serait déposé très bientôt et le gouvernement du Québec, donc le premier ministre François Legault, a dit que si c'était nécessaire, il n'hésiterait pas à invoquer la clause dérogatoire. Plusieurs partis politiques se positionnent sur la question alors que la réforme semble approcher. Du côté du Parti québécois, on s'en rappelle, en Conseil national en fin de semaine dernière, le Parti québécois a fait volte-face et a approuvé l'implantation de la loi 101 pour le réseau collégial, donc pour les cégeps.
Oui, on a eu une excellente entrevue d'ailleurs, ici même aux Affamés, avec la présidente du Comité national des jeunes du Parti québécois, Marie-Laurence Degagné. Vous pouvez aller la réécouter sur chiz.ca.
Comme toutes nos émissions d'ailleurs. Mais blague à part, dans ce cas-là également, le Parti libéral a une position très différente. La chef Dominique Anglade a dit que pour ce qui était de la réforme de la loi 101, elle ne s'opposerait pas à l'invocation de la clause dérogatoire. En fait, il y a une entrevue assez intéressante dans Le Devoir ce matin à ce sujet avec la chef de l'opposition. Elle dit vouloir revenir à ce qu'était le Parti libéral du Québec sous Robert Bourassa, où on avait une préoccupation plus importante pour le nationalisme, pour la défense de la culture de la langue française au Québec, alors que dans les derniers mandats du Parti libéral du Québec, sous Jean Charest et Philippe Couillard, on s'était passablement éloigné de cette conception historique qu'il y avait du nationalisme québécois au Parti libéral.
Effectivement, donc, avec ce jugement-là, le jugement Blanchard, qui dit que l'application de la clause dérogatoire est trop utilisée, l'affaire à nouveau pour la Charte de la langue française, la réforme de la Charte de la langue française, ça va assurément mener à beaucoup de débats et on va continuer à suivre ça avec une très grande attention. Pour vous, ici, aux Affamés, HS 94.3, là, on va prendre une petite pause publicitaire musicale. On va aller écouter une nouveauté, un nouveau groupe de la ville de Québec qui s'appelle Festoute et leur chanson Street Bang. C'est un banger, comme disent les jeunes. Vous allez voir, vous écoutez toujours les Affamés sur les ondes de HS 94.3.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental!
Incroyable!
Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite Antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive.
Mets-toi au toughness!
OK, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse-pêche et bien plus. Conduite Antisportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Tu sais, cet ami gossant qui, dans toutes les conversations, finit par dire « C'est comme dans le livre d'un tel ou dans le film d'un autre. » Ben, la Planète des Sages, c'est cet ami en trois exemplaires qui prennent une heure d'espace radio pour jaser d'un tel. Chaque semaine, le mardi à 10h, on convoque une figure populaire et on approche naïvement son œuvre. On se retrouve sur la Planète des Sages, à Chiz 94.3.
Yeah.
tu portes du pilote, Billy, pas du fricote, tu trottes, tu flottes, t'as pas personne qui t'offre. On y va dans le coffre, c'est du rough love.
Calimera, deux œufs tournés, qualité gras. Avec un bon café, t'as mérité ça. Extra bacon, gueule de bois, un cap visa. Wake and bake, hamburger helper, you're a snake. Derrière les fourneaux, you're so great. Déjeuner deux, pour le chauffeur me briller. Un Normal Tuesday.
Oh ouais, man, oh ouais, man, ah, c'est ça qui est son nom.
Mais moi, j'aime tout le monde.
Non, mais mettons, t'es pas sûr là, que c'est pas Monique, là.
On se casse le cou.
Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde, mais tout le monde est pas prêt à s'aimer. Moi j'aime tout le monde.
Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. On vous venait d'écouter Street Bang par Festoot. C'est mon coup de cœur de la semaine, vraiment, dans les nouvelles sorties musicales ici à Québec. Et on va rester dans le local, on va rester à Québec parce que, Félix, tu nous as trouvé quelque chose de l'information sur la Maison Polac qui se situe au coin de la Grande Allée et Cartier, si je ne me trompe pas.
Effectivement, au coin de la Grande Allée et de l'avenue Cartier, il y a la Maison Polac. La Maison Polac, c'était la demeure de l'ancien homme d'affaires bien connu à Québec, Maurice Polac. Et cette maison-là, en fait, depuis près de 3 ans, dans le fond, c'est en processus d'achat par la Ville de Québec, car c'est une maison patrimoniale dont le propriétaire néglige de faire l'entretien. Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quand même une assez belle maison avec des belles colonnes de style néo-classique. Et depuis plusieurs années, on voit des échafaudages autour et la maison est dans un état assez piètre. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Ville de Québec a officiellement fait l'achat de la maison pour la somme modique de 896 000 $. Et dans le fond, en fait, la Ville de Québec avait demandé l'expropriation du propriétaire de la maison qui négligeait d'en faire l'entretien. Et le tribunal administratif a fixé le coût de la transaction à 896 000 $. On se rappelle, en février 2020, la Ville avait fait une offre d'environ 600 000 $. Ça avait été approuvé par le conseil municipal, mais du point de vue administratif, on ne pouvait pas faire l'opération immédiatement. Il fallait donc encore faire quelques procédures, quelques technicalités sur le sujet.
Effectivement, et on va rester dans le domaine de l'habitation parce qu'il est sorti ce matin un gros article, un gros résumé du point de presse de la ministre de l'Habitation, André Laforêt, parce qu'on sait que présentement, le marché de l'immobilier est en surchauffe, particulièrement à Montréal, mais également à Québec. On voit qu'il y a des hausses du prix des maisons à la grandeur du territoire et avec le maintien du taux directeur à 0,25% par la Banque du Canada qui a été annoncé hier. Cette hausse des prix-là, cette embellie, en fait, cette surenchère dans le marché de l'immobilier n'est pas près de s'arrêter. Et donc, la ministre de l'Habitation, André Laforêt, a dit qu'il faut donner la responsabilité aux citoyens. Elle écarte pour l'instant toutes les options d'intervention de l'État dans le dossier. Elle dit qu'il faut faire de l'éducation, il faut faire de la sensibilisation, mais il n'est pas question d'avoir plus de transparence pour l'instant dans le domaine de l'habitation. On sait que c'était une demande du député de Québec solidaire, Andrés Fontecilla, d'avoir un marché de l'immobilier plus transparent pour que tout le monde puisse savoir combien est-ce que les maisons sont vendues dans un quartier pour que tout le monde puisse savoir quelles sont les surenchères exactement, ce qui pourrait empêcher certains propriétaires de vendre beaucoup plus cher que la valeur réelle des maisons.
Et d'entraîner un phénomène de spéculation immobilière, dans le fond.
Oui, c'est ça. Le but pour ce député de Québec solidaire, c'est d'essayer d'empêcher la spéculation, d'essayer de garder les habitations à un prix qui est raisonnable.
Et on s'en rappelle depuis, ça fait quand même plusieurs mois que ça se parle, qu'il semble y avoir une crise du logement au Québec. Le prix des loyers, entre autres dans la métropole, devient de plus en plus inabordable. Et le prix des maisons également, semble-t-il. Selon plusieurs études également, c'est au Canada dans les dernières années que le prix de l'immobilier a le plus augmenté par rapport à la dernière décennie.
Effectivement, depuis 2003, selon les chiffres que j'avais en main ici, l'immobilier aurait augmenté d'environ de plus de 150% au Canada. En 20 ans, 150% d'augmentation, je peux vous dire que c'est pas mal plus gros que l'inflation. On peut tenter de comprendre d'où vient la ministre de l'Habitation. Elle dit « J'ai des amis courtiers, j'ai des amis qui investissent dans l'immobilier. » Donc, elle dit qu'elle ne se préoccupe pas seulement des gens qui achètent des maisons et des gens qui louent des maisons, mais également des gens qui investissent dans le secteur, des gens qui vendent. Et pour ces gens-là, la hausse des prix n'est pas une si mauvaise chose que ça. C'est parce que ça se transforme en hausse des profits.
Donc, effectivement, on voit que dans cet épineux dossier de la surchauffe sur le marché immobilier, bien, les gens n'ont pas tous les mêmes intérêts, que ce soit pour les gens qui vendent, les propriétaires ou les habitants, les locataires.
Effectivement, parce que c'est dans les personnes qui souffrent le plus, ce ne sont même pas des personnes qui achètent des nouvelles maisons, mais ce sont surtout les locataires qui tentent de se trouver des nouveaux logements ou qui se font... évincés de leur logement, parfois par des moyens plus ou moins légaux, comme les rénovictions. Ces propriétaires qui font des rénovations pour ensuite tripler le prix d'un loyer pour tenter de faire partir des locataires qui sont là depuis trop longtemps et qui donc gèlent le prix du loyer à un niveau qui est beaucoup plus bas que ce qu'ils voudraient. On va rester en économie, en affaires, parce qu'on a une bonne nouvelle quand même, une excellente nouvelle pour le Québec. Ma cabane à la maison, cette initiative conjointe de plusieurs cabanes à sucre en collaboration avec les épiceries Métro, de pouvoir offrir des repas de cabane à sucre en épicerie ou à la cabane directement pour être capable de l'apporter à la maison, de le déguster en famille malgré la pandémie.
Parce qu'on s'en rappelle, effectivement, c'était une deuxième saison consécutive qui tombait à l'eau pour les propriétaires de cabanes à sucre. Le printemps 2020 et le printemps 2021, les salles à manger des cabanes à sucre, effectivement. Bon, en 2020, ça a été carrément complètement annulé en raison de la pandémie. En 2021, c'est impossible dans les zones rouges ou dans les zones qui sont soumises aux mesures d'alerte renforcées, comme la capitale nationale.
Effectivement. Donc, ça a été très compliqué. Et donc, la solution, ça a été cette initiative-là, ma cabane à la maison, et ça a été un succès retentissant. Il y a eu 110 000 boîtes représentant 500 000 repas. Donc un demi-million de repas qui ont été vendus par les différentes cabanes à sucre. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est autour de leur chiffre d'affaires habituel, peut-être même un peu plus.
C'est impressionnant quand même.
Oui, c'est impressionnant. Donc, ça se peut que cette initiative-là soit reprise dans les prochaines années en complément avec les repas directement en cabane, avec l'ambiance festive, la musique traditionnelle et tout le tralala, parce que... probablement qu'on va pouvoir voir cette adaptation-là. On voit que les Québécois sont friands de cette tradition culturelle-là, même s'ils ne peuvent pas aller directement dans les cabanes à sucre, parce qu'on se rappelle que le quart d'entre elles ont fermé depuis le début de la pandémie
C'est tellement saisonnier, en fait, aussi, également, comme voilà, milieu, la cabane à sucre. Si vous manquez une saison, c'est un peu comme le tourisme. Quand vous manquez les chiffres d'affaires d'une saison au complet, c'est très difficile de vous en remettre, surtout pour les gens qui auraient moins de réserves financières de côté.
Effectivement, la saison des sucres, c'est 12 semaines au Québec uniquement. 12 semaines semaines, c'est vraiment pas beaucoup pour faire son chiffre d'affaires pour une année au complet. Et on rappelle quand même que le Québec a produit 73% du sirop d'érable du monde entier. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez unique au Québec comme situation. On va s'en aller prendre une petite pause musicale. On va aller écouter Le Grand Fret de Pascal Larose et on vous revient tout de suite après avec des nouvelles internationales et intersidérales, tant qu'à y être. Vous écoutez toujours Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Qui fait fret. Je resterai bien chez nous, mais faut que je gagne ma paye. J'aurais cru que de rester couché aurait fait l'affaire. Mais non, j'ai mal au doigt parce qu'il fait fret en calvaire.
Se lève. Vous écoutez Les Affamés sur les ondes de Chiz 94.3.
Rebonjour et re-bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. Et on s'en va directement en actualité internationale parce que le Canada et les États-Unis ont annoncé conjointement des politiques de réduction des gaz à effet de serre aujourd'hui parce que ben, c'est le jour de la Terre aujourd'hui. Bonne journée oui. De la Terre.
Bonne journée à toi aussi, Guillaume.
Oui, donc c'est le jour de la Terre aujourd'hui et donc Ottawa et Washington augmentent leur cible de réduction des gaz à effet de serre et donc en augmentant la cible, ils veulent qu'il y ait moins de gaz à effet de serre.
Oui, effectivement. C'est des chiffres en haut par en bas, mais on comprend ce que ça veut dire.
On comprend ce que ça veut dire. Donc le Canada réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45% par rapport à leur niveau de 2005 d'ici 2030. La cible précédente était de 30% d'ici 2030. Donc, c'est une augmentation significative de la cible.
C'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Et est-ce qu'on a des détails techniques sur comment les gouvernements de ces deux pays-là comptent s'y prendre pour atteindre les objectifs qu'on se fixe? 2030, c'est dans 9 ans.
C'est dans 9 ans. Et effectivement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a insisté sur l'importance que des cibles ambitieuses s'accompagnent de plans pour les atteindre, entre autres celui de la tarification du carbone. C'est Jean-Thomas Léveillé de La Presse qui nous rapporte ces informations-là. Les États-Unis, par contre, veulent réduire de 50 à 52% leurs émissions par rapport à leur niveau de 2005. Et donc, atteindre la carboneutralité au plus tard en 2050. Donc ça aussi, c'est une...
C'est un objectif qui est adopté par beaucoup de gouvernements occidentaux à travers le monde.
Oui, c'est une augmentation très grande, celle de Justin Trudeau, celle du gouvernement du Canada, mais aussitôt adoptée, aussitôt critiquée parce que les États-Unis sont capables d'avoir des cibles plus ambitieuses et même un rapport a démontré mercredi que le Canada serait capable de réduire ses émissions de 60% par rapport à leur niveau de 2005 d'ici 2030. Donc, on sait que 60% c'est atteignable et on vise 40-45%. Groupes environnementaux. En fait, le responsable de la campagne climat et énergie de Greenpeace Canada dit que la cible proposée par Trudeau est moins ambitieuse que ce qu'exige la science du climat, sans aucun engagement à éliminer les combustibles fossiles au pays et à l'étranger. Du côté de Anne-Céline Guyon, chargée de projet Climat à Nature Québec, pour elle, Justin Trudeau, plutôt que de se présenter en premier de classe, le premier ministre a choisi de se contenter de la note de passage.
Ça, c'est un commentaire qui va résonner fort pour plusieurs étudiants, pour plusieurs élèves. Ne visez pas le D ou le D+, visez plutôt le A si vous êtes capable de le faire, d'autant plus que le sort de la planète en dépend.
Oui, effectivement, et c'est le commentaire de Joe Biden. Il faut qu'il y ait des plans, et ces plans-là, pour lui, les plans environnementaux, vont amener plusieurs bons emplois, des emplois bien payés, des emplois syndiqués, Green New Jobs, comme il les appelle.
C'est très, très proche de l'appellation Green New Deal, qui est revendiqué par une grande partie croissante de la gauche états-unienne, ça.
Effectivement, et donc on peut voir d'où ça vient cette influence-là. D'ailleurs, il y a plusieurs critiques qui disent que Joe Biden est présentement en train d'en faire plus en 3 mois, qu'il a des cibles plus ambitieuses après 3 mois au pouvoir que Justin Trudeau après 5 ans au pouvoir. Ça fait pas bien paraître le premier ministre canadien.
Mais surtout, on voit aux États-Unis que Joe Biden semble même être plus ambitieux que son prédécesseur Donald Trump, mais aussi que même Barack Obama. Barack Obama, on s'en rappelle, à son élection, avait suscité beaucoup d'espoir sur le front écologique. Mais au final, le plan de décarbonisation des États-Unis adopté sous l'administration Obama avait été jugé très décevant par les militants écologistes. Et semble-t-il que Joe Biden ne s'inscrit pas dans la continuité de son ancien patron Obama, mais semble vouloir aller même plus loin que cela.
Effectivement, la cible d'Obama était de 26 à 28 alors que la cible de Biden, c'est de 50 à 52
C'est du simple au double, en fait.
Et c'est du simple au double. Donc, on va voir comment ça va se passer, ça aussi. C'est sûr qu'à l'international, il y a eu d'autres réactions. On parle du président de la Chine, Xi Jinping, qui a souligné que son pays atteindrait ainsi la carboneutralité en moins moins de temps que les autres en diminuant et même en abandonnant complètement le charbon, eux qui sont les premiers consommateurs de charbon au monde, principalement pour la production de leur électricité. L'Inde, troisième émetteur mondial derrière la Chine et les États-Unis, garde aussi le cap sur sa cible de l'accord de Paris, donc une réduction des émissions de 33 à 35 sous leur niveau de 2005. Mais le président Narendra Modi tient à rappeler que l'Inde a une empreinte écologique par habitant 60 % inférieure à la moyenne mondiale.
Seulement, c'est ça. L'Inde, c'est un pays d'un milliard d'habitants. Donc, même si vous avez une empreinte par habitant plus faible, comme vous êtes un pays très peuplé, juste mathématiquement, vous avez un plus gros impact.
Effectivement, on va rester aux États-Unis parce que l'Oklahoma vient d'adopter une loi qui protège les gens qui foncent sur les manifestants avec leur voiture.
Effectivement, c'est le gouverneur de l'État, le républicain Kevin Stitt, qui a signé le projet de loi qui a été adopté par la législature de l'Oklahoma. Ça, c'est à la suite de, en mai 2020, sur l'autoroute Interstate 244, il y avait des manifestants qui entouraient un camion et le conducteur du camion qui était enragé de voir cela, avait foncé dans la foule. Plusieurs personnes avaient été blessées. Selon le texte de loi adopté par la législature de l'Oklahoma, un conducteur de véhicule à moteur qui blesse ou tue involontairement un individu n'est pas criminellement responsable de la blessure ou de la mort s'il fuit une émeute et s'il a la croyance raisonnable que la fuite était nécessaire pour le protéger de blessures graves ou de la mort. Et ce texte législatif, il va entrer en vigueur le 1er novembre prochain. Et ça s'inscrit dans une tendance. Plusieurs États aux États-Unis qui sont gouvernés par les républicains ont adopté des lois similaires. C'est notamment le cas de l'Iowa, du Kansas et de l'Arkansas.
Effectivement, c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt inquiétant de pouvoir se dire que des meurtres au deuxième degré, des meurtres au troisième degré comme ça, vont rester impunis.
Effectivement, et c'est ce qui inquiète plusieurs associations de défense des libertés civiles. Et on s'en rappelle, ça s'inscrit dans les vagues de manifestations qu'ont connues les États-Unis depuis l'assassinat de George Floyd en mai 2020. Mais on s'en rappelle également, en 2017, était arrivée la même chose aussi, lors des émeutes de Charlottesville qui opposaient des partisans du président Trump à des manifestants antifascistes. Il y avait une manifestante antifasciste qui avait été tuée par un homme qui avait foncé dans la foule de manifestants avec son véhicule.
C'est plutôt inquiétant tout ça. C'est vraiment plutôt inquiétant. On va aller du côté des un peu meilleures nouvelles puisque la Russie a annoncé le retrait de ses troupes près de l'Ukraine. On sait que depuis une semaine, deux semaines, la Russie avait fait la plus grande mobilisation de troupes terrestres depuis la fin de l'URSS. Donc ça fait quand même un certain temps, et pour les mettre le long de la frontière de l'Ukraine. On sait que le Donbass, qui est la région limitrophe entre la région qui se retrouve en Ukraine près de la Russie, est présentement aux prises avec une guerre civile où des radicaux pro-russes
s'opposent à l'armée ukrainienne. En fait, ça, c'est un conflit qui dure depuis 2014 et il n'y a jamais... Il y a eu de multiples cessez-le-feu qui ont été violés à plusieurs reprises et le conflit n'a jamais été vraiment réglé. Aucun accord de paix n'a encore été trouvé dans cette situation-là. Beaucoup soupçonnent fortement la Russie d'envoyer des mercenaires dans la région du Donbass pour déstabiliser l'est de l'Ukraine, ce que la Russie a toujours démenti.
Effectivement. La Russie dit qu'elle... La Russie a reculé face aux menaces, face aux pressions de l'Occident. On sait que l'Ukraine avait demandé à l'OTAN de l'appeler. Avait appelé l'OTAN à l'aider dans le cas d'une escalation... dans le cas d'une escalade pour que cette guerre fermée se transforme en guerre ouverte. Et la Russie avait également... le président russe, dans son adresse à la nation cette semaine, avait dit que toute attaque contre la Russie aurait comme une réponse forte et asymétrique.
Donc, c'était pas très rassurant comme déclaration. On est content que le niveau de tension ait diminué de quelques degrés.
Oui, on va terminer notre émission avec... On vous le tease un petit peu depuis le début de l'émission, mais les nouvelles interstellaires. Le robot Persévérance a créé de l'oxygène sur Mars.
Comment c'est possible? C'est tout ce que je veux savoir.
D'accord. Donc, la planète rouge, Mars, a une atmosphère composée à 97% de dioxyde de carbone, donc de CO2, ce qui n'est pas respirable, mais ce qui n'est surtout pas combustible si jamais on voulait envoyer une fusée et après ça la renvoyer au retour pour qu'elle revienne sur Terre. Il faudrait qu'elle soit capable de brûler de l'oxygène dans l'air pour être capable de sortir. C'est pour ça que tous les robots qu'on a envoyés sur Mars jusqu'à présent ne sont jamais revenus. Ils sont tous là pour l'instant. Et donc, là, on a commencé à tenter à faire une expérience. Est-ce qu'on est capable de transformer du CO2 en O2, donc du dioxyde de carbone en oxygène?
Parce que normalement, pour faire ça, ça prend une plante qui fait de la photosynthèse pour transformer du CO2 en dioxygène.
Effectivement. Eh bien, là, il le fait sans être une plante. C'est un robot qui le fait par électrolyse. Il utilise donc électricité et chimie pour scinder les molécules de CO2, produisant ainsi de l'oxygène d'un côté et du monoxyde de carbone de l'autre. Donc, il transforme le CO2 en CO directement. Donc, il arrache
un atome d'oxygène, oui.
Ouais, un atome d'oxygène au CO2 pour essayer de créer de l'oxygène. Et donc, pour l'instant, ce robot a réussi à créer suffisamment d'oxygène pour qu'un astronaute normal soit capable de respirer pendant 10 minutes sur la planète s'il respirait uniquement cet oxygène-là.
Par contre, quand on respire de l'air, on ne respire pas seulement de l'oxygène. Respirer de l'oxygène pur, en fait, c'est pratiquement aussi dangereux que respirer juste du CO2.
Effectivement. Mais c'est une première étape. Donc, potentiellement qu'il pourrait y avoir des missions plus importantes de transformation de l'atmosphère martienne.
La terraformation, comme on dirait.